Bonjour et bienvenue à vous et merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Alors ce matin, nous retrouvons le Père Michel de Gigord. Père, bonjour.
Bonjour.
Alors dernièrement, nous avons eu la joie de vous avoir au micro et de vous entendre nous raconter un petit peu votre vie. Et cet engagement, vous l'avez fait au sein des Missions étrangères de Paris. Alors pouvez-vous nous dire ce que sont les Missions étrangères de Paris ?
Alors, les Missions étrangères de Paris, dans le langage technique de l'Église, c'est ce qu'on appelle un institut missionnaire. Cela veut fondamentalement dire que nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des prêtres diocésains qui nous mettons à la disposition de diocèses à l'extérieur de la France. Mais nous restons attachés à notre diocèse d'origine. Dans ce langage très technique de l'Église, on appelle ça... On a une double incardination, c'est-à-dire on est incardiné dans notre diocèse d'origine. Moi, pour moi, c'est Dijon, donc je reste incardiné sur le diocèse de Dijon. Mais à partir du moment où je quitte la France pour aller travailler dans un autre pays, je vais être incardiné dans le diocèse où je vais atterrir. Et les missions étrangères ont été créées au XVIIe siècle. C'est la plus vieille, c'est le plus vieux de ces instituts qu'on appelle des instituts missionnaires. On a déjà fêté nos 350 ans d'existence. Et c'est un institut qui a répondu à un appel du pape au XVIIe, car au XVIIe siècle, l'ensemble des territoires missionnaires de l'Église étaient partagés en deux, une partie appartenant au royaume du Portugal et une autre partie appartenant au royaume d'Espagne. Donc c'était l'Espagne et le Portugal qui dirigeaient l'ensemble des missions sur la terre entière. L'Église, le Vatican en avait marre de ce système et a cherché des gens qui voudraient, eux, se mettre directement à la disposition du Vatican. Et les missions étrangères sont nées comme ça. Trois prêtres de France qui se sont proposés comme volontaires pour partir en mission sous la direction spécifique du Vatican. Et le Vatican a lancé l'idée de partir en Asie. Et donc les missions étrangères se sont mises en place comme cet institut missionnaire à la disposition du Vatican pour l'Église d'Asie. Et depuis le début... des missions étrangères, tous les prêtres des missions étrangères, eux, ont donc travaillé en Asie et ont joué un rôle extrêmement important dans la naissance de ce qu'on appelle des églises locales sur l'ensemble de l'Asie. Car les instituts religieux qui travaillaient pour le Portugal et pour l'Espagne, des dominicains, des augustiniens, des jésuites, tout ça, ils travaillaient pour eux. Tandis que notre but principal aux missions étrangères, c'était de former le clergé local. Dès qu'on arrivait dans un pays, tâche principale, c'était d'ouvrir des séminaires pour les locaux, afin que les locaux soient ordonnés et petit à petit prennent la place des évêques étrangers et que l'Église devienne véritablement une Église locale, pleinement locale. Et petit à petit, au départ, tous les évêques étaient des évêques français, mais très 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 vite, ils ont été remplacés par des évêques chinois, laotiens, vietnamiens, tous les pays où on était, malaisiens, les Philippines, on n'y était pas. Et donc ça, si vous voulez, voilà ce qu'est les missions étrangères de Paris. Les évêques locaux aiment beaucoup les missions étrangères de Paris parce que justement, un prêtre des missions étrangères de Paris qui travaille dans un diocèse en Asie ne peut pas être transféré ailleurs. Il est comme un prêtre français. Si je suis prêtre français à Dijon, je reste à Dijon jusqu'à la fin de mes jours. Si je suis un prêtre français des missions étrangères qui travaille, comme je l'ai fait moi, dans un diocèse de Malaisie au départ, je ne pouvais pas être transféré ailleurs. Ça veut dire je passerai ma vie entière dans le diocèse où j'ai été envoyé à Dijon. C'est très, très, très intéressant pour les évêques parce que, justement, ça fait que ces prêtres étrangers sont traités exactement de la même façon que les prêtres locaux. La seule différence entre un prêtre des missions étrangères et un prêtre local, c'est que les prêtres des missions étrangères avaient la possibilité de rentrer au début c'était tous les 5 ans, et puis petit à petit avec l'amélioration des transports, c'est devenu tous les 3 ans. Tous les 3 ans, on avait le droit de partir en France, de passer 3 mois, et puis de revenir. Ça, c'était la seule différence vraie différence avec les prêtres locaux. Donc c'est une société, un institut séculier qui a joué quand même, je pense, un rôle fondamental dans la création des églises locales, en tout cas dans les pays où nous avons travaillé, car nous ne travaillons pas, nous n'étions pas en Océanie. Nous travaillons exclusivement en Asie. Donc ça partait de la Corée au nord et puis ça descendait en bas jusqu'en Malaisie, Singapour, Malaisie. Petit à petit, on s'est ouvert à d'autres pays comme l'Indonésie et puis essentiellement l'Indonésie, voilà. Mais c'est vraiment ce qu'on appelle l'Asie. Hein. Donc on n'a jamais été dans les îles du Pacifique.
Et Père, à l'heure actuelle, alors y a-t-il encore beaucoup de prêtres des missions étrangères de Paris en Asie ?
Alors les prêtres des missions étrangères de Paris n'ont jamais été nombreux. Nous n'avons jamais été plus de 1000 MEP à la même époque. Hein. Aujourd'hui, nous sommes environ 400. Et sur ces 400 prêtres, il y en a à peu près 200 qui travaillent encore en Asie. Et nous avons la chance, dans un pays comme la France où il y a très, très, très peu de vocations. Nous avons la chance, en missions étrangères, d'avoir encore un nombre significatif de vocations. En ce moment, il y a une vingtaine de jeunes qui sont plus ou moins attachés avec les missions étrangères à différents stades de leur formation.
Donc, Père, les missions étrangères de Paris, comme leur nom l'indique, ont un séminaire qui est à Paris et qui accueille principalement des Français, mais est-ce qu'il y a des volontaires originaires de ces pays d'Asie ?
Les missions étrangères ont comme caractéristique qu'ils ne prennent des candidats que de leur pays. Et donc jusqu'à très récemment, il n'y a jamais eu de séminaristes. Et quand je vous dis qu'il y a 20 séminaristes, en gros, aux missions étrangères à l'heure actuelle, ce sont des Français, des franco-français. Parce que ça fait partie de l'esprit des missions étrangères. Nous sommes l'expression missionnaire de l'Église de France. Quelques exceptions, mais les Vietnamiens qui sont aux missions étrangères de Paris et les Indiens qui sont aux missions étrangères de Paris, en fait, ce sont des gens qui ont la citoyenneté française.
Alors, avant de conclure cette émission, nous pourrions évoquer deux prêtres qui ont exercé en Nouvelle-Calédonie. Et que je ne sais pas si vous les avez connus, mais du moins vous en avez entendu parler.
Au Vietnam, dans les années 75-76, il y a eu l'arrivée du communisme là-bas, au Vietnam. Et donc, il y avait des tas de prêtres français, des centaines, parce que c'était la plus grosse mission qu'on avait, qui tout d'un coup se sont retrouvés chassés du Vietnam. Ils étaient trop âgés pour pouvoir se remettre dans un autre pays où il fallait de nouveau apprendre une autre langue, etc. Mais ils étaient trop jeunes pour vouloir rentrer en France. Donc ils cherchaient un point d'attache et l'évêque de la Nouvelle-Calédonie a entendu parler de ça. Il a dit « mais moi je veux bien prendre ces prêtres en Nouvelle-Calédonie ». Et donc, il y a eu, au total, je crois qu'il y a eu 7 prêtres des missions étrangères de Paris qui ont travaillé ici en Nouvelle-Calédonie, dont 2 en particulier, que je me rends compte qu'ils ont vraiment une réputation assez extraordinaire, donc le père Kermarek et le père Radley. Mais il y a d'autres prêtres, il y a eu le père Queno, le père Boutari, je ne connais pas tous les noms, mais je crois qu'au total, ils ont été 7. Voilà. Et donc c'est une petite parenthèse, justement, pour la première fois, il y a des prêtres qui sont établis en Nouvelle-Calédonie.
Voilà, eh bien, merci pour cet exposé sur les missions étrangères de Paris, et que nous connaissons justement à travers ces prêtres qui ont exercé ici, et qui, comme vous le disiez, ont laissé un souvenir très très vif. Merci beaucoup Père de Gigord, merci à vous amis auditeurs, et nous serons heureux de vous retrouver dimanche prochain en vous souhaitant une très bonne semaine.